Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Ce soir, c'est l'équipe de la Fondation Copernic qui est aux manettes de l'émission Mode d'emploi comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter l'émission Didier Gélot, Emmanuel Rengoit et Claude et Damien en régie. Alors pour commencer, une petite citation, attention on se concentre. En même temps que disparaît la société industrielle de la France du XXe siècle, s'opère, à travers de luttes symboliques, le vieillissement des mots sociaux qui servent à la décrire. Ouvrier, patronat, classe ouvrière. L'émission de ce soir est consacrée à la question du discours politique sur les classes populaires et à leur attention, à gauche notamment, et surtout au PS. Pour en discuter, nous avons invité Rémi Lefebvre, qui est professeur de sciences politiques à l'université Lille 2 et chercheur au CERAP, spécialiste des partis politiques en particulier. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Rémi Lefebvre.
Bonsoir.
On retrouvera aussi en seconde partie d'émission Franck Lepage, qui est membre de la coopérative d'éducation populaire Le Pavé, auteur, acteur et grand promoteur des conférences gesticulées dont nous expliquerons cette. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org, ou sur le site de Mode d'emploi. Bonsoir, donc ce soir, le thème de notre émission, c'est le rapport entre discours politique et classe populaire. Donc Rémi Lefebvre, merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, pas de problème.
Alors pour commencer, pour attaquer tout de suite le sujet, on peut commencer par le constat et puis peut-être après essayer de chercher à l'expliquer ou à comprendre cette évolution du discours politique et en particulier des partis sur les classes populaires et à leur attention. Le constat qu'on peut faire, le constat global et notamment au PS, c'est plutôt celui d'une baisse du discours à l'attention des classes populaires et puis d'une évolution de la manière d'en parler. Alors depuis quand est-ce qu'on peut voir ce changement-là au PS? Qu'est-ce que vous avez observé là-dessus?
Mais écoutez, Pierre Mauroy, donc grande figure du socialisme des années 80, issu de la Fédération socialiste du Nord, qui était plutôt une fédération ouvrière, avait été très choqué en 2002 à propos de la campagne de l'UMJ Jospin. Il avait dit au candidat Jospin, d'ailleurs anticipant un petit peu le problème des milieux populaires et expliquant un peu par avance l'échec de Lionel Jospin à l'élection présidentielle, il avait dit: Lionel, le mot ouvrier n'est pas un gros mot, or tu ne le prononces pas. Il observait que le candidat Jospin ne parlait plus des ouvriers, hein, comme si c'était un gros mot, comme le disait Bourdieu dans le très bel extrait que vous avez cité en exergue de cette émission, finalement cette réalité des ouvriers n'existait plus socialement et ne valait plus d'être nommé. Voilà. Alors même que il faut le remarquer, les ouvriers représentent toujours à peu près un quart de la population active et que les milieux populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés, représentent toujours une majorité sociale en France, hein, puisqu'ils sont majoritaires chez les électeurs. Et donc, alors c'est difficile de dater le processus, mais effectivement, à partir des années 90, le PS va devoir beaucoup de mal à nommer en fait les groupes sociaux qu'il est censé défendre en tant que parti de gauche. D'ailleurs, on observe le même phénomène au Parti communiste, hein, qui va parler des gens, parler du peuple. Et donc le mot ouvrier va progressivement être disqualifié et va disparaître du langage socialiste. D'ailleurs, en 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui parlait même des ouvriers et la candidate Ségolène Royal qui avait d'ailleurs, même après 2002, abandonné aussi, comme si finalement c'était pas possible pour un élu socialiste de parler d'ouvriers, alors même que cette réalité sociale, elle existe toujours aujourd'hui.
Tout à fait.
Mais on reviendra d'ailleurs avec vous là-dessus, si vous le voulez bien, sur savoir sur le fait si est-ce que cet abandon du discours par une partie de la gauche, hein, éventuellement a été repris par d'autres forces politiques, et on pense peut-être aussi au Front National. Dans ce cas-là, mais on reviendra peut-être après, si vous voulez bien. Mais donc effectivement, vous datez ça plutôt des années 90, alors que bon, classiquement, on situe plutôt le tournant du parti socialiste au début des années 80, avec le tournant de la rigueur des années 80. Oui. Est-ce que ce discours a pris un peu de retard
C'est l'abandon de la rhétorique ouvrière dans un parti socialiste qu'il faut le rappeler. Alors toujours été un parti réformiste. En même temps, c'est ambigu le positionnement historique du parti socialiste, parce que c'est un parti qui affirmait la lutte des classes dans ses statuts jusqu'en 1991 et qui en même temps était un parti qui n'a jamais été vraiment un parti ancré dans le monde ouvrier, oui. Sauf dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Plus ouvriériste qu'ouvrier finalement.
Voilà, si on parle par exemple de Mitterrand en 81, même en 88, il y avait encore un discours ouvrier et les ouvriers d'ailleurs ont voté très largement pour François Mitterrand au deuxième tour de l'élection présidentielle de 88. Oui. Donc le décrochage effectivement, alors c'est difficile à dater, mais il est consécutif au tournant de la rigueur effectivement de 82-83 où les socialistes abandonnent le programme qui les avait portés au pouvoir en 80, c'est-à-dire un programme de transformation sociale, un programme de relance de la demande, et donc qui adopte c'est le virage social-libéral. Mais finalement, l'abandon de la phraséologie ouvrière, elle est un peu plus tardive. Et donc, effectivement, c'est fin des années 80, début des années 90.
Alors, pour commencer à réfléchir sur les explications, vous en avez déjà donné quelques éléments, mais il y a quelque chose que vous mettez en avant dans vos analyses, qui est que après l'élection de 2002, après ce qu'on pourrait appeler la claque, pour être méchant, de Lionel Jospin au niveau du vote des classes populaires, il y a une remise en cause au sein du parti. Il y a des discussions là-dessus, sur cet élément de est-ce que le Parti socialiste a raté quelque chose, doit recommencer, se refocaliser sur les classes populaires. Donc il y a plusieurs courants qui mettent en avant ces éléments-là. Et c'est un petit peu une autocritique qui fait long feu, finalement. Et est-ce que vous pouvez revenir sur les explications du fait qu'elle fait long feu, cette critique ?
Ben, c'est très frappant. Vous savez, le PS, c'est troublant, d'ailleurs, quand on étudie ce parti. C'est un parti qui est très, très lucide sur lui-même, en fait, hein, qui connaît très, très bien ses mots, mais qui est souvent incapable d'y remédier. Donc, c'est un parti, par exemple, qui est très conscient qu'en termes de militants, il n'est pas du tout représentatif de la base sociale qu'il est censé défendre, qui compte énormément de fonctionnaires et de salariés des collectivités locales. Beaucoup d'élus, c'est un parti notable. Ça, c'est pas seulement un discours de spécialiste de sciences politiques, hein, le fait que c'est un parti notable, les militants socialistes le disent, le rejettent, et même parfois les élus notables eux-mêmes le déplorent. Mais au fond, et donc effectivement, vous avez raison de souligner qu'après 2002, le diagnostic de la défaite de Lionel Jospin, alors il faut se souvenir qu'à l'époque, alors c'est historique, hein, puisqu'il y a seulement 13% des ouvriers qui vont voter Jospin en premier tour de l'élection présidentielle, il y a 14% des ouvriers qui votent Chirac. Hein, donc, là, vraiment, on atteint l'étiage le plus bas hein, du vote ouvrier pour le PS sous la Ve République. Après, ça sera un petit peu mieux, d'ailleurs, avec Ségolène Royal et François Hollande. Mm-hmm. Alors pourquoi le PS, alors qu'il reconnaît finalement cette faiblesse, n'est incapable de d'y remédier ? Bah, je crois que, d'un point de vue sociologique, et là, on peut encore à la fois mobiliser Bourdieu, je pense que c'est un parti où les intérêts sociaux sont plus forts que finalement... Les constats qui peuvent être faits. C'est-à-dire que c'est un parti où c'est très difficile, par exemple, pour des énarques qui sont en général de la bourgeoisie, comme François Hollande, par exemple, de tenir le mot ouvrier, parce que ça fait tâche, quelque part. Ça fait affecter, si vous voulez. Et donc, on peut... et puis après, il y a aussi... Alors, on y reviendra, hein. Il y a aussi... C'est à la fois un diagnostic... cette faiblesse dans les milieux populaires, mais il y a aussi l'idée que finalement le PS ne peut pas assumer d'avoir un discours plus de gauche et donc il est inutile finalement de chercher à reconquérir ces milieux populaires parce que finalement le centre de gravité électoral du PS a changé. C'est plus du tout aujourd'hui les ouvriers comme ça pouvait l'être avec François Mitterrand en 81-88. Aujourd'hui le centre de gravité du PS c'est les urbains diplômés, hein, et donc la tentation est très très forte, d'autant que les milieux populaires s'abstiennent de plus en plus.
Alors effectivement, on pourra revenir
finalement de changer de stratégie. Hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il faudra en parler. C'est la stratégie de Terra Nova en 2012, qui est de dire les ouvriers.
Abandonnons.
De toute façon, ils sont lepénisés, droitisés. Abandonnons les ouvriers. Essayons de trouver une nouvelle coalition électorale.
Donc on est dans des motifs qui sont à la fois d'ordre sociologique propre au parti. Et on va y revenir aussi, effectivement, des motifs qui sont liés au rapport au vote, aux pratiques politiques des ouvriers, finalement. Peut-être on peut revenir un peu sur ce qui est lié au PS en lui-même, c'est-à-dire à sa sociologie, à son organisation.
Bah, moi, c'est une hypothèse qui traverse mes travaux, c'est que moi, j'estime que on a une vision parfois très idéologique du PS, c'est-à-dire tout le monde sait que le PS est devenu un parti social-libéral, mais moi, en tant que sociologue, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi d'ailleurs, beaucoup de gens sont PS, constatent que c'est social-libéral, le déplorent et que ça change rien. Mmh. Et donc, pour moi, l'hypothèse, elle est sociologique. C'est-à-dire que c'est parce que c'est ce que pensent les socialistes est lié à ce qu'ils sont socialement. Et ce qu'ils sont socialement, c'est-à-dire un parti, alors, en quelques mots, hein, c'était le sens du bouquin que j'avais publié avec Frédéric Savicky, oui, la Société des Socialistes, donc en 2006, c'est que le Parti Socialiste, qui n'a jamais été, je le répète parce que souvent on me reproche de mythifier un petit peu mm-hmm. le parti avant, qui n'a jamais été certes un parti de masse ouvrier, mais qui est un parti de moins en moins en prise avec les milieux populaires, un parti qui a rompu ses liens avec le monde associatif, le monde syndical, les intellectuels, l'extrême gauche auprès de laquelle il s'était régénéré dans les années 80, mm-hmm. Qui est de plus en plus professionnalisé, où les intérêts électoraux sont de plus en plus dominants, et où finalement les modes de militantisme sont très très peu attractifs pour des milieux populaires qui sont de plus en plus distants socialement des socialistes. Et concrètement, moi je pense que si j'actualise un petit peu mes hypothèses, quand vous voyez par exemple les gens qui sont dans l'entourage de François Hollande, les technocrates, et c'est pas voilà, c'est un technocrate, c'est le terme sociologique, les énarques, la bourgeoisie, quand vous regardez par exemple le conseiller, le secrétaire général adjoint de François Hollande qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est normalien, qui appartient à la grande bourgeoisie, comment voulez-vous que ces personnes-là, qui sont si distants socialement des milieux populaires, défendent des options politiques et soient capables de se défaire de l'idéologie dominante? Ils sont structurés, ils ont été socialisés, ils ont été éduqués, ils gravitent dans des milieux où les milieux populaires sont éloignés, où ils fantasment d'ailleurs les milieux populaires en pensant qu'ils sont conservateurs. Et donc voilà, donc concrètement, et on observe le même phénomène, bon par exemple, une des hypothèses aussi qui court dans mon travail, c'est que avant le PS c'était un parti d'enseignants. Or, c'était des enseignants qui étaient issus plutôt des milieux populaires. Or, et donc ces enseignants qui n'étaient pourtant pas des ouvriers, ils avaient une proximité avec le monde des ouvriers. Alors, qui tiennent aussi d'ailleurs, alors ça n'existe plus, et ça tient aux transformations du métier d'enseignant.
Vous avez un autre argument que vous utilisez dans vos travaux, c'est la culture du gouvernement. C'est peut-être pas non plus un hasard si vous fixez la date de passage un peu d'un discours en direction des classes populaires à un discours qui abandonne ses classes aux années 80, au moment où justement le PS arrive au gouvernement.
Oui, effectivement. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La culture de gouvernement, sur le plan sociologique, ça va avoir pour un effet. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut pas non plus jeter la pierre au PS, c'est que c'est très difficile d'y résister. C'est que pour produire des politiques publiques, pour investir les cabinets ministériels, il faut produire des hauts fonctionnaires. Ces hauts fonctionnaires sont issus de milieux plutôt favorisés. Mmh. Et donc c'est vrai que la tentation pour un parti de gouvernement, c'est plutôt effectivement de rejeter le profil associatif ou syndical pour privilégier en fait des experts. Donc en fait, le PS est devenu un parti d'experts, et c'est vrai que ces partis d'experts formés à l'ENA sont de plus en plus distants socialement des milieux populaires. Donc effectivement, mais là encore, pour moi, si vous voulez, la question idéologique n'est qu'une, je dis pas qu'elle est pas secondaire, elle est essentielle, mais on ne peut la comprendre aussi que lorsqu'on comprend d'où viennent les acteurs sociaux qui peuplent aujourd'hui le Parti Socialiste.
Et en cela, au PS, il y a une articulation finalement aussi entre cette culture de gouvernement, et là je reprends aussi vos analyses, hein, et ce qui se passe au niveau local, parce qu'au niveau local aussi, le fait que le PS soit de plus en plus un parti d'élus, c'est ce que vous mettez en avant, ça contribue à produire de la dépolitisation du discours et une espèce de déconflictualisation de la politique à la manière PS finalement.
Tout à fait, c'est-à-dire que le PS, bon, inutile de préciser que le PS aujourd'hui est hégémonique localement, hein. Il a tout, il a la plupart des villes, la quasi-totalité des régions, tous les départements, et tout ça, ça pèse fortement, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un processus de professionnalisation de la politique, c'est-à-dire que la politique est devenue, c'est une longue histoire, mais la politique est devenue un métier, les élus locaux ont beaucoup de pouvoir, ils mènent des politiques de plus en plus gestionnaires, hein, c'est la bonne gouvernance, il y a de moins en moins de différences, hein, entre des villes de gauche et des villes de droite. Quand vous regardez par exemple Gérard Collomb, il n'y a aucune différence entre la gestion de Gérard Collomb et celle d'Alain Juppé ou de Jean-Claude Gaudin à Bordeaux ou à Marseille.
Qu'est-ce qui explique cette évolution de la manière de faire de la politique au niveau local?
Ben, qu'est-ce qui explique ? Alors d'abord, c'est des processus qui tiennent qui s'imposent au PS. C'est aussi le fait que concrètement, les contraintes gestionnaires s'imposent de plus en plus aux élus. Le fait aussi que les militants soient de moins en moins contrôlés par les élus soient de moins en moins contrôlés par les militants. Hein, donc comme les militants ont de moins en moins de pouvoir, comme les militants sont happés par les responsabilités locales, travaillent dans les cabinets des élus, travaillent dans les collectivités locales, ils sont aussi de plus en plus dépendants de ces intérêts électoraux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tentation pour un élu en place, c'est de ne pas politiser, mais de créer des consensus pour être élu. C'est plus facile. Pour être élu, la rationalité électorale d'un notable, c'est plutôt de rassembler que de cliver. Et donc, effectivement, dès lors qu'il faut absolument conserver les positions locales pour servir tous ces auxiliaires du jeu politique qui gravitent autour du PS, la tentation, c'est plutôt d'aller chercher les électeurs du MoDem que d'aller politiser les milieux populaires qui, en plus, de plus en plus s'abstiennent. Parce que, bon, pour être juste, là, je suis un peu sévère peut-être avec le PS, il y a aussi des transformations qui sont extérieures au PS.
Oui, alors c'est ça, on va y venir.
Ont beaucoup changé, évidemment.
Alors, avant de revenir sur les milieux populaires, dernière question sur le PS, mais effectivement, ensuite, on va parler aussi des évolutions de la sociologie en général. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment, et dans quelle mesure, un départ des militants d'origine populaire au sein du PS ou il reste une partie de plus en plus minoritaire? Est-ce qu'ils ont vraiment été présents et à partir de quand ça bouge?
Il y en a plus beaucoup. Hein. Dans la dernière enquête PS de 2011, c'est 2% des militants qui sont d'origine populaire. Donc ça a été le chiffre. Alors ça n'a jamais été très élevé, hein, mais en gros, on est passé de 20% en 81 à 2%. Bon, donc divisé par 10 en 30 ans. Moi, c'est vrai que j'ai un bon observatoire pour étudier cette défection des milieux populaires. C'est que je travaille beaucoup dans les fédérations socialistes du Nord et du Pas-de-Calais, qui sont mes sites privilégiés d'observation, qui étaient plutôt des fédérations populaires. Et alors là, c'est très très manifeste. Hein. C'est-à-dire que vous avez, y a plus que les militants d'origine populaire ne sont plus que de vieux militants. Mmh. Et globalement, les réseaux populaires du PS dans ces villes se sont complètement décomposés. Hein, voilà. Mais plus fondamentalement, la force d'attraction. Si le PS n'était pas ouvrier précédemment, au moins il avait une capacité de rayonnement sur les milieux populaires. Or, il a perdu cette capacité de rayonnement. Donc, il ne faut pas simplement analyser le nombre d'adhérents issus des milieux populaires, la part de ces militants issus des milieux populaires, mais il faut aussi analyser les réseaux du Parti Socialiste. Mmh. Or, ces réseaux sont de plus en plus des réseaux d'élus, plus que des réseaux ancrés dans les milieux populaires.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale avant de passer à l'explication des autres motifs. Hein, on va revenir plus sur la sociologie générale et puis sur les motifs électoraux aussi. On va écouter tout d'abord Le Petit Bonheur de Félix Leclerc.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le banc d'un foncé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur. Un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux.
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission aujourd'hui animée par la Fondation Copernic, et nous recevons Rémi Lefebvre autour de la question du discours politique en direction des classes populaires. Rémi Lefebvre, bonjour de nouveau.
Rebonjour, oui.
Rebonjour.
Je suis toujours avec vous.
Eh bien, écoutez, nous vous en remercions, d'autant plus que nos auditeurs n'ont peut-être pas compris, mais vous êtes au téléphone.
Ils ont dû saisir.
Voilà. Je suis à Lille.
Voilà. Vous êtes à Lille, absolument.
C'est période de fête.
Donc, merci encore de nous avoir rejoints. Écoutez, alors, après cette première discussion entre nous autour du rapport du Parti Socialiste à la classe ouvrière, vous dites d'ailleurs que les mots ont un sens, et c'est peut-être un petit peu là-dessus qu'on pourrait continuer à travailler ensemble. Est-ce que à la fois le fait de ne plus parler de classe ouvrière, parler d'exclus, a un sens? Et est-ce que les mots eux-mêmes n'ont pas une implication sur ce que vous avez appelé, je crois, l'invisibilité de la classe ouvrière?
Bah, si, effectivement, la fonction de la politique, c'est de créer des identités sociales qui puissent être mobilisatrices. Mmh. Hein, ça, c'est très important. Hein, la fonction du discours politique, c'est de projeter une vision de la société dans laquelle des individus puissent se reconnaître puissent. Donc, il y a à la fois dans la représentation, effectivement, on peut dire que c'est difficile, par exemple, pour un ouvrier de s'identifier à un représentant socialiste qui n'est pas issu de sa classe. Bon, mais passe encore, à la limite. Mmh. Au moins, s'il tenait un discours qui soit en prise, en fait, avec la représentation du monde social. Hein, c'est Bourdieu, décidément, on revient toujours à lui, qui disait que mal nommer la réalité sociale, c'était une grande faute politique. Et donc, concrètement, comment est nommé ce groupe des ouvriers qui représente un quart de la population? Alors attention, je dis pas que c'est facile, parce que Stéphane Beau et Michel Pialou, qui ont écrit un ouvrage fondamental à la fin des années 90, qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière », constatent par exemple que, là où ils travaillent à Montbéliard et Sochaux, constatent que les ouvriers eux-mêmes ne veulent plus, notamment les ouvriers jeunes, ne veulent plus qu'on les appelle ouvriers. Parce que, finalement, ce terme d'ouvrier est devenu péjoratif, et on va préférer le terme d'opérateur, etc. Et que finalement, le discours ouvrier, c'est un discours de vieux ouvriers syndicalistes.
Mais bon, le discours politique a été incapable de proposer une nouvelle nomination.
Non seulement il a contribué à ringardiser, mais c'est aussi parce que le discours politique a contribué à ringardiser le mot ouvrier. Pourquoi Nicolas Sarkozy, lorsqu'il prononce le mot ouvrier en 2012, il n'y a personne qui lui dit qu'il est ringard? Hein, et donc, d'un certain point de vue, d'ailleurs, au passage, en 2012, il a vraiment eu un bon taux de pénétration, comme disent les spécialistes de socio-électoral, dans le monde ouvrier.
Avec le travail qui redevient un élément important.
Le travail, le discours qui fait mouche et une partie des milieux populaires, pas tous, sur l'assistanat, etc. Mmh. Bon, donc, le problème du PS, c'est qu'il a. De toute façon, on le voit aujourd'hui, hein, la gauche est complexée. En fait.
Oui, on pourrait ajouter le PC.
La gauche est complexée. On a une droite alors qui revendique maintenant son caractère décomplexé, c'est-à-dire elle est de plus en plus à droite et elle l'assume. Et puis il y a une gauche qui, par exemple, on l'a vu avec Depardieu cette semaine, qui a honte de dire que les propos de Depardieu sont minables ou répréhensibles. Voilà, donc ça c'est Hollande qui dit oui, quand même, voilà, faut pas être agressif. Voilà. Donc il y a toujours cette idée d'avoir une espèce de discours un peu irénique, consensuel, qui s'adresse à tout le monde, alors que la politique, c'est du conflit aussi. Hein. Et la droite, finalement, a une vision beaucoup plus conflictuelle de la politique que la gauche. Hein. La droite, elle défend des intérêts de classe. Alors que la gauche, socialiste du moins, elle répugne à les défendre.
Alors justement, vous dites conflictuel. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être aussi, quand même, on peut peut-être pas mettre, si j'ose dire, tout le monde dans le même sac. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, je pense au discours aujourd'hui que peut avoir le ministre du redressement industriel. Est-ce que là, c'est pas une tentative d'essayer de recapter de nouveau ces classes populaires?
Si, mais les ouvriers. François Hollande est très habile. En fait, il a composé son gouvernement pour avoir aussi une mosaïque d'individualités qui permettent, on a Cahuzac, Moscovici, qui sont la droite, la gauche responsable, qui rassure les milieux d'affaires. Et puis, effectivement, on a Montebourg qui, dans la partition gouvernementale, est plutôt va au front.
D'ailleurs, on a même l'actualité nous a montré que, je crois, une quinzaine de députés socialistes ont directement abordé ce sujet. Hein,
ouais, alors on pourrait en parler d'ailleurs. Hein,
parlons-en.
C'est la gauche populaire avec une vision très très, très très particulière des milieux populaires. C'est-à-dire qu'eux, ils disent qu'il faut s'adresser aux milieux populaires, bon, ce qui me semble très très bien, mais en même temps, ils ont une vision quand même des milieux populaires qui serait en gros assez raciste, assez réactionnaire. Et leur discours, quand on creuse un peu, c'est de dire il faut s'adresser à eux, mais surtout pas, par exemple, le mariage des homosexuels, surtout pas des réformes entre guillemets sociétales. C'est-à-dire que
c'est une ringardisation dans notre sens, finalement.
Voilà. Alors après, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas une fraction des milieux populaires qui sont plutôt traditionnellement conservateurs sur le plan des mœurs, etc. Mais il y a aussi une vision. Mais je reviens à Montebourg. Le problème, c'est que Montebourg, effectivement, il s'adresse aux peut s'adresser au milieu populaire. Il l'avait fait pendant les primaires autour de la démondialisation. Absolument. Même si c'était pas du tout les ouvriers n'avaient pas du tout participé aux primaires. Mmh. Bon, mais Montebourg, concrètement, c'est pas lui qui décide dans le gouvernement. Et on a bien vu avec Florange que finalement, c'est bien le problème. C'est que Montebourg, il est là pour être sur l'affiche et puis pour essayer de contenir la défection des milieux populaires qui sont déjà très déçus par le gouvernement Hérault. Enfin, concrètement, c'est pas les options aujourd'hui politiques de Montebourg qui sont dominantes au gouvernement, et c'est le moins compliqué de dire.
Donc sur le gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir du PS, finalement, on est plutôt dans la droite ligne de ce qui s'est construit les années précédentes sur la manière de parler des classes populaires, parce que j'ai repris dans votre texte quelque chose qui était intéressant. Il y avait une contribution de François Hollande après la défaite de 2002 qui disait dans son analyse que le rapport aux classes laborieuses est une question majeure pour la gauche et qu'il fallait traiter.
Mmh.
Donc de ce que je vous entends, on n'a pas eu d'évolution, et sur la manière de positiver les identités.
On a eu un discours, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est celle du ministre des Technologies, Fleur Pellerin, bon, qui est vraiment le prototype de l'énarque issu des milieux dominants, qui a même dit la lutte des classes c'est terminée, c'est ringard. Bon, moi j'ai quand même l'impression, alors la lutte des classes, les classes sociales, c'est un autre débat, les classes sociales objectivement n'ont pas disparu. Alors subjectivement, elles sont affaiblies, parce qu'aujourd'hui les ouvriers, la conscience de classe a reculé, mais c'est aussi la faute des partis politiques.
On peut revenir là-dessus aussi,
effectivement. Des partis qui la fabriquent. Et donc,
qui ne nomment plus la classe ouvrière.
Voilà, mais aussi, concrètement, il y a toute une série de travaux, les travaux des Pinson Charlot, mais je veux dire, par exemple, les patrons eux-mêmes qui disent que la lutte des classes s'est radicalisée et qu'aujourd'hui, la bourgeoisie est toujours une classe sociale qui existe, qui est mobilisée.
Tout à fait.
Donc, dire qu'il n'y a plus de lutte des classes, enfin, c'est nier la réalité sociale. Aujourd'hui, tous les sociologues démontrent qu'il y a une recrudescence des inégalités, qu'aujourd'hui, par exemple, les inégalités devant la santé, devant l'école, devant l'université progressent. Donc ça, c'est bien des classes sociales en tant que communauté de pratique. Et donc le PS, mais là encore, c'est parce qu'il est rattrapé par la sociologie de ses dirigeants, par les milieux sociaux auxquels ils appartiennent, et puis aussi par son manque de courage politique, finalement ne peut pas tenir un discours qui apparaît pourtant en décalage de plus en plus flagrant avec la réalité.
Et au-delà de la sociologie propre du PS, est-ce que c'est pas quand même aussi la sociologie en général ? C'est-à-dire que c'est plus difficile aujourd'hui de construire une identité ouvrière ou une identité populaire parce qu'il y a eu des évolutions, il y a eu un déclin des grands lieux industriels, il y a eu le chômage, et puis il y a une fragmentation des expériences de travail.
Ça, c'est indiscutable. Donc ça, c'est pour ça que je pense que c'est très important de le dire. Hein, et ça permet aussi quand même de nuancer un petit peu de ne pas accabler trop les socialistes. Et qu'aujourd'hui, bon, mais par des raisons qui ont été analysées par plein de sociologues, je pense par exemple à Luc Boltanski et M. Schiapello, qui ont montré que dans les années 70, la stratégie du management, ça va être de casser les solidarités ouvrières, de casser la syndicalisation, de précariser, de flexibiliser, de ringardiser la classe ouvrière. Donc il y a des évolutions économiques, il y a aussi des évolutions culturelles, la montée d'un individualisme consumériste marchand qui aussi affecte les milieux populaires. Donc tout ça casse les milieux populaires, tout ça les dépolitise. Et effectivement, à côté de ça, les socialistes qui, eux, n'ont pas beaucoup de courage politique, la tentation, c'est de penser que toutes ces évolutions-là, finalement, sont des fatalités et que le PS n'a qu'à s'adapter, ne peut pas... Je pense que le problème du PS, c'est que le PS ne montre pas que ces transformations sont le produit aussi du libéralisme. C'est-à-dire, c'est le libéralisme qui déconflictualise la société, c'est le libéralisme qui affaiblit la classe ouvrière, etc., etc.
S'adapter à cette réalité, d'une certaine manière, c'est ne plus croire en la politique, en la capacité de construire des identités politiques.
Bah oui, mais ça c'est bien le problème, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même, et là moi je suis très très frappé en tant qu'observateur et en tant que citoyen engagé aussi par au fait la disparition de l'alternative politique, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une forme de continuité avec quelques continuités politiques avec Sarkozy, malgré que il y a quelques aménagements, c'est pas la même politique, mais là on est vraiment dans le syndrome thatchérien, il y a pas d'alternative, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est l'austérité. Alors le problème, si vous voulez, moi c'est que la situation politique et sociale requiert énormément de courage, elle requiert des ruptures. Or, François Hollande ne sera jamais l'homme des ruptures. Il ne peut pas faire de ruptures. Il n'est pas programmé socialement pour les faire. C'est tragique. C'est-à-dire qu'il y a le décalage entre la radicalisation de la situation sociale, le renforcement du libéralisme et finalement une social-démocratie qui, plus que jamais, n'est pas capable de aujourd'hui, Bon, mais là, je parle politiquement. Le réalisme, c'est la radicalité.
Néanmoins, d'autres reprennent un discours qui pourrait parler aux classes ouvrières.
Oui, oui. Alors, il y a un discours, mais après, bon. On parle du Parti Socialiste. La gauche, ce n'est pas uniquement le Parti Socialiste. En même temps, ce qui est quand même frappant, je ne voudrais pas que ça rende trop pessimiste les forces de gauche, mais c'est vrai que on regarde par exemple Jean-Luc Mélenchon, on peut pas dire qu'il est percé chez les milieux populaires. Mmh. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui effectivement un vrai discrédit de la classe politique chez les milieux populaires. Il y a une désespérance sociale chez les milieux populaires. Il y a aussi le fait que la politique, bon ça a été très bien montré par des travaux sur l'abstention, notamment les travaux de Jean-Yves Dormagen, qui montrent qu'aujourd'hui, le rapport à la politique des milieux populaires s'est vraiment distancié et que finalement, même un discours comme ça, un peu parfois tribunicien, alors c'est vrai aussi un peu un télo de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas simplement le discours qui va amener à la reconquête des milieux populaires. Et les milieux populaires, aujourd'hui, ceux qui sont politisés sont aussi devenus réalistes, et puis ceux qui ne sont pas intéressés par la politique n'y croient plus, en fait.
Mais on pourrait aussi parler du tournant quand même assez, assez fort qu'a pris le Front National ces dernières années, justement, pour s'adresser à ces milieux populaires dont il a bien noté qu'ils avaient été abandonnés par une partie de la gauche.
Évidemment, le Front Populaire, c'est... le Front Populaire,
le Front National.
Oh là là.
Mais le Front National...
Qui est devenu un parti populaire. Alors, qui est devenu un parti populaire, c'est compliqué.
Plus ou moins, oui.
À Hénin Beaumont, il s'est devenu un parti populaire. En même temps, c'est pas un parti très implanté. C'est pas un parti de militants, le Front National. Par contre, c'est un parti très clairement qui a bien vu qu'il y avait une cible électorale qui était les milieux populaires, qu'il pouvait les récupérer. Alors, attention de ne pas colporter une vision trop schématique de l'électorat Front Populaire. Là, c'est les travaux d'Annie Queloval
qui
nous y invite. C'est-à-dire que les milieux populaires ne votent pas majoritairement pour le Front National. Donc c'est aussi une manière de les disqualifier, les prolos, entre guillemets. Il y a une prolophobie qui est d'ailleurs assez dominante au PS, qui est de dire, oui, mais de toute façon, les milieux populaires, ils sont lepénisés.
Oui, la croyance, c'est ça.
Les petits commerçants votent proportionnellement plus pour le Front National que les ouvriers. Il y a aussi un vote bourgeois pour le Front Populaire, pour le Front National, décidément. Après, moi je pense qu'il faut affronter la réalité. Il y a aujourd'hui une capacité d'attraction du Front National chez les milieux populaires qui est réelle, qui est liée aussi au fait que le PS ne mène plus de travail politique auprès des milieux populaires. Les milieux populaires n'ont jamais été historiquement, spontanément de gauche. Ils ont été de gauche parce qu'ils ont été politisés, il faut revenir à Marx, ils ont été encadrés, ils ont été...
On peut parler du travail du Parti communiste d'ailleurs.
C'est aussi parce que le Parti communiste a fait un travail historique extraordinaire que la classe ouvrière a été politisée à gauche. Aujourd'hui, ce travail n'est plus accompli. Et d'ailleurs, j'ai montré dans mon dernier bouquin sur les primaires, la fin du Parti militant, que pour moi, l'adoption des primaires témoignait de l'abandon de cette idée d'un parti qui soit militant, qui soit un parti en prise avec la société une vision de la démocratie d'opinion, en fait.
C'est vrai au-delà du PS, d'ailleurs, cette idée-là.
On fait voter les gens et puis on ne cherche pas à modifier leur comportement.
Alors, on peut peut-être faire le lien aussi pour compléter entre cette attitude à l'égard des classes populaires ou des catégories populaires et puis les attitudes électorales, finalement. C'est aussi en parallèle de une certaine dépolitisation des classes populaires ou de la montée de pratiques d'abstention que le PS s'est désintéressé, et au-delà du PS aussi d'autres partis. Vous évoquiez Terra Nova tout à l'heure, effectivement.
Ouais.
C'est devenu quasiment une proposition de stratégie politique que...
Le rapport de Terra Nova, moi, qui m'a horrifié, Terra Nova, donc think tank proche du PS, voilà. Qui en fait quelques mois avant l'élection présidentielle de 2012 produit une note écrite par Olivier Ferrand, qui en gros, alors c'est un peu plus compliqué dans les faits, je simplifie un peu, en gros nous dit que le PS ne peut pas conquérir une majorité électorale en se centrant sur le milieu populaire parce que ces milieux populaires sont droitisés. Et surtout ne vote plus. Finalement, électoralement, c'est plus payant de s'adresser à eux et qu'il faut plutôt constituer une coalition, je vais dire un peu vite, de bobos, fils d'immigrés, jeunes, et puis finalement laisser les milieux populaires au Front National. Alors, c'est en fait ce rapport qui a été beaucoup critiqué au PS, En fait, moi, cette réflexion, je la sens monter au PS depuis des années. Mmh. Et en fait, Terra Nova a formulé explicitement quelque chose qui n'est pas encore de l'ordre du disciple au PS, parce que, bon, ça paraît un peu cynique, hein, oui. Même si beaucoup d'élus pensent ça, en fait. C'est qu'ils se disent, on voit notamment au niveau local, comme les milieux populaires s'abstiennent de plus en plus, finalement, la tentation, c'est de plus s'adresser à eux pour garder les sièges, sachant que le PS est devenu un parti électoraliste, une machine électorale qui cherche avant tout à garder ses sièges locaux. Hein, bon, et donc, finalement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de villes, de villes comme Nantes, Lille, Strasbourg, c'est que c'est des villes de bobos urbains, et finalement, aujourd'hui, les socialistes cherchent plus à s'adresser à ces groupes par leur politique culturelle, et on fait le deuil, si vous voulez, de reconquérir les milieux populaires. Voilà. Et donc, du coup, les milieux populaires sont laissés par une nouvelle logique, livrés à eux-mêmes. Et on va voir. Et alors, mais cette logique-là va être redoutable électoralement pour le PS, parce que. Alors après, il y a aussi parce que concrètement, les milieux populaires ne vont pas participer aux prochaines élections municipales. Hein, c'est dans 2 ans. Vont sanctionner le gouvernement et le PS va perdre des plumes électoralement, c'est sûr. Alors, il en perdra plus d'ailleurs dans les milieux périurbains où les milieux ouvriers se sont réfugiés, parce que ce qu'on observe aussi, ça c'est une évolution majeure de la sociologie des milieux populaires en France, c'est qu'on a un déplacement des milieux populaires des villes vers le périurbain. Ça a été très bien montré par Gaël Brustier, par exemple, qui a montré que les milieux populaires aujourd'hui se sont écartés des villes, ce qui d'ailleurs les a paupérisés, parce que du coup, ils sont obligés de dépenser plus d'essence pour aller travailler. Ils peuvent plus aller en ville parce que les loyers sont trop chers, parce que l'immobilier a beaucoup augmenté. Et donc, du coup, ils vont se réfugier dans le périurbain. Or, c'est beaucoup plus difficile encore pour les partis de gauche qui voudraient les toucher dans le périurbain, parce que c'est des lieux d'anomie sociale. Voilà, donc en fait, on a une espèce de piège qui s'est peu à peu mis en place et qui fait que le PS est devenu le parti des métropoles et que les milieux populaires, alors ce qui contribue encore un peu plus à les disqualifier, les ringardiser, vont dans les milieux périurbains, et c'est justement là où le Front National arrive à les mobiliser électoralement aux diverses consultations.
Bien, bah écoutez, merci. Je crois que là, on va être malheureusement obligé de s'arrêter. On vous remercie pour.
C'était un plaisir, je pense que c'est une question importante, donc je suis à votre disposition pour.
Merci à vous.
Eh bien écoutez, encore merci alors. Hein. Et voilà, on va donc maintenant passer une petite musique.
Ce sera la Mano Negra, Malavida. C'était donc la Mano Negra, Malavida. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Et c'est l'émission de la Fondation Copernic ce soir.
Eh bien maintenant, après cette introduction longue et intéressante avec Rémi Lefebvre, nous allons maintenant nous...
recevoir un nouvel invité.
Nous allons recevoir un nouvel invité, merci, qui est Franck Lepage. Alors, nous l'attendons.
Présente rapidement. Oui, Franck Lepage est donc membre de la coopérative d'éducation populaire, le PAV, qu'il a contribué à créer, je pense. Il va nous en parler. Et puis, nous, on l'a découvert sur Internet. Il est à la fois auteur et acteur de ses propres spectacles. Il a fait une transformation, un changement de vie professionnelle. Je pense qu'il va nous en parler aussi. Et il propose des conférences gesticulées. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur Internet. On donnera son site tout à l'heure. C'est assez intéressant.
Alors, ce qu'on vous propose pour l'instant, peut-être, c'est de passer un court extrait, hein, d'une de ses conférences gesticulées. Et ensuite, on va l'avoir au téléphone et on pourrait
échanger avec lui.
Voilà.
Vous avez peut-être vu, vous savez qu'il y a le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Hein. Il y a des mots qui disparaissent et des mots qui apparaissent, hein, régulièrement. Et donc, moi j'ai appris ça, je ne savais pas. Les linguistes connaissent ça très bien. On pense avec les mots. Hein. Et c'est pas le contraire. C'est pas je pense une réalité sociale et je fabrique des mots. Ça marche pas comme ça. C'est il y a des mots Et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, on ne pense pas de la même manière la réalité sociale. Je vais prendre un exemple parce que je sens que je parle chinois. Pour ceux qui sont assez vieux dans la salle, ceux qui ont connu la guerre de 68, à l'époque, il y avait un penseur qui s'appelait Marcuse. Marcuse qui nous avait prévenu. Il avait dit « Attention, mes petits amis, nous sommes en train de vivre en ce moment, en 68, dans le monde, hein, c'est pas seulement en France, la toute dernière critique efficace du capitalisme, parce qu'on est en train de nous changer les mots et on est en train de nous enlever des concepts qui permettent de penser négativement le capitalisme et de nous donner à la place des concepts opérationnels, c'est-à-dire qui ne servent pas à penser mais seulement à agir et qui le désignent d'une façon strictement positive. Je prends un exemple parce que je vous sens perplexe. Dans ces années-là, les pauvres, encore un mot en train de disparaître, je trouve ça très bien, il y a de moins en moins de pauvres. Donc dans ces années-là, les pauvres, quand on était travailleur social, voyez, éducateur, on les appelait des exploités. Je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Ça ne nous posait aucun problème de les désigner comme des exploités, donc de les penser comme des exploités. Oui. Alors, exploiter, vous comprenez bien, est un mot terriblement embêtant pour le pouvoir. Puisqu'il désigne la personne non pas comme un état, mais comme le résultat d'un processus qui est l'exploitation. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, tout de suite, vous cherchez qui l'exploite. Comment ? Quelqu'un exploite ce type ? Où il est que je lui pète la gueule ? Alors, le pouvoir nous a fait comprendre, ce s'est fait très subtilement. Hein. Ah, non ? C'est un message, c'est un SMS peut-être. Le pouvoir nous fait comprendre que ça serait bien désormais d'appeler ces gens-là plutôt des défavorisés. Bon, alors, regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec dans la même situation. Hein. Mais alors, dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol.
Bonjour Franck Lepage.
Oui, bonjour.
Bonjour, on a passé un extrait, vous l'avez entendu je pense.
Oui, je viens d'entendre.
Voilà, voilà, vous êtes bien reconnu.
Oui.
Ouais.
On sent que ça marche bien dans la salle.
En tous les cas, la salle a l'air intéressée effectivement. Alors dites-nous un petit peu Franck Lepage, on vient de discuter là pendant une petite demi-heure avec Rémi Lefebvre qui est politiste.
Hein, qui est politiste sociologue.
Qui est politiste, voilà, sociologue et qui on a un peu... parler avec lui sur le rapport des partis politiques aux classes populaires et on a pensé que discuter avec vous après était certainement tout à fait en phase. Alors on a passé ce petit extrait de votre spectacle. Peut-être avant vous présenter déjà peut-être dans un premier temps.
Oula.
On vous a présenté un petit peu.
Puis
peut-être
nous
pouvez nous parler
de... C'est bien. Voilà, je suis prophète indépendant. Voilà.
Super. Vous pouvez nous parler peut-être du pavé, là, ce que c'est votre coopérative.
Écoutez, oui, sachant que je viens de la quitter.
Ah, bah alors.
On a raté la dernière information.
On a raté la dernière information.
Non, parce que je voulais me consacrer entièrement à l'accompagnement des conférences gesticulées.
D'accord.
Parce que je trouve que c'est un outil superbe. Et donc, je fais ça avec eux, je suis tout le temps avec eux. Mais juste juridiquement, c'est un petit point de détail, mais j'ai rendu mes pas. Donc, il y a un problème de déontologie. Je ne suis pas autorisé à parler en leur nom.
D'accord. Voilà. Ces conférences gesticulées, alors expliquez-nous
voilà,
un peu.
Par ça, on était un certain nombre de gens qui n'en pouvions plus de cette langue de bois et de ce qu'on nous faisait faire. Enfin, on devenait littéralement dingue, comme la plupart des travailleurs sociaux aujourd'hui, de tout le monde. Enfin, bref, tout le monde devient fou. Et
oui, donc, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que vous étiez initialement travailleur social, c'est ça, hein.
Oui.
Donc, c'est ce que vous expliquez un petit peu dans votre conférence gesticulée et qu'à force de devoir, si j'ose dire, ressasser un discours, vous avez pensé que peut-être il y avait un autre discours qui était possible.
Bah oui, on est tous, des centaines de milliers qui utilisons 15 mots pour obtenir des subventions, toujours les mêmes. Enfin, c'est juste aberrant, quoi. Enfin, on est dans des logiques de projet dont on n'a strictement rien à foutre, pour faire de la mobilité des jeunes dont on se tape éperdument, faire du lien social qui est une obscénité, dans le cadre de territoires de proximité qui est une sinistre connerie. Et donc, comme on est tous obligés de faire ça, sans quoi on ne peut plus travailler, on a tout simplement plus d'argent public. On est dans une situation qui est extraordinairement grave, de destruction complète de la possibilité de penser politiquement son intervention, son métier. Et on est tous rentrés dans des procédures, des moules, des protocoles. Oui. Enfin, ça affecte tous les métiers, pas seulement ceux du travail social. D'ailleurs, les infirmières en peuvent plus. Enfin, bref.
Vous avez vraiment vécu aussi, on peut dire en direct ou bien intégré, le fait que pour travailler, notamment avec les milieux populaires, parce que c'est là que vous bossiez, si j'ai bien compris, il y avait tout un vocabulaire, il y avait des normes à respecter finalement.
Bien sûr.
Dans la manière de les construire, je veux dire. C'est clair.
Oui, complètement. Enfin, toute la politique de la ville, par exemple, qui est une relecture, une espèce d'obligation de nommer positivement ce qui se passe dans les quartiers, qui est de fait une interdiction de penser les problèmes. Enfin, il faut raisonner en termes de développement local, donc vous voyez bien le piège, c'est que moi je trouve ça formidable d'être positif, enfin on est tous pour, enfin c'est pas la question. C'est vrai qu'il y a des énergies merveilleuses dans les quartiers populaires, mais si c'est l'occasion de ne plus dire la lutte des classes, ou de ne plus dire la violence sociale, ou de ne plus dire tout ça,
Oui, il y a un abandon politique aussi.
Bah, évidemment, oui.
Mais c'est ce qui est fort, je crois, dans votre spectacle. Alors, comment vous l'appelez ? Vous l'appelez spectacle ou vous l'appelez comment ?
Conférence
gesticulée.
Je tiens au terme de conférence.
D'accord. Eh bien, ce qui est fort quand même, c'est tout. C'est pour ça qu'on a voulu discuter avec vous après cette, sur ce thème finalement du discours du politique vis-à-vis des classes populaires. On a passé l'extrait où vous expliquez que finalement on ne parle plus de travailleurs, on ne parle plus de pauvres, enfin on ne parle plus de...
Oui.
D'ouvriers, mais on parle d'exploités. Et vous dites bien, c'est quand même le fait que les mots jouent un rôle finalement sur la réalité sociale. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous essayez de dire dans votre...
Mais totalement. Mais ça, c'est les linguistes qui m'ont expliqué ça. Moi, je savais pas ça. Enfin, je veux dire, j'avais jamais réfléchi à ça. Mais bon, les linguistes doivent apprendre ça en première année, j'imagine. C'est qu'on pense avec les mots. Moi, je croyais que c'était le contraire. Si vous voulez, naïvement, je m'imaginais qu'on pense la réalité sociale, la situation, et puis on invente des mots. Mais alors, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y a des mots à notre disposition, et ces mots nous permettent de penser. Et donc, évidemment, quand on nous les change, les mots, on pense les choses différemment. C'est tout ce qui est en train de nous arriver. Ce qu'un philosophe un petit peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Marcuse, avait parfaitement compris en 68, quand il nous prévenait qu'il était en train de se passer quelque chose dans le registre du langage, qui fait qu'on nous retirait tous les mots négatifs, tous les mots qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme, et qu'on les remplaçait par des mots positifs. Et donc, à partir du moment où le capitalisme s'appelle développement, vous êtes foutus. Vous ne pouvez plus ne le penser que positivement.
C'est compliqué de critiquer le développement, effectivement.
Oui, bah, du coup, il y en a qui voudraient que ça soit durable, c'est normal.
Alors, ce que vous dites, ça me fait penser aussi à d'autres auteurs qui ont travaillé ça. Je pense à Hélène Thomas qui montre comment on a parlé progressivement des pauvres de manière à ne pas utiliser un vocabulaire revendicatif en parlant des vulnérables ou des moins dotés ou des personnes faibles, etc. Est-ce que vous, dans vos conférences gesticulées, justement, vous arrivez à proposer des nouvelles nominations finalement, parce que vous utilisez les exploités, etc. Vous êtes plutôt sur un retour sur les termes qu'on utilisait dans les années finalement 60 ou 70.
Alors, vous voyez tout de suite la difficulté de faire retour sur ces termes, c'est qu'une grande partie de ces termes sont empruntés au vocabulaire du marxisme. Mm-hmm. Et que tant que le marxisme est dans le niveau de décrédibilisation dans lequel il est actuellement, dès que vous parlez d'exploiter, vous avez l'impression, on vous prend pour Arlette Laguiller.
Oui, puis c'est pas forcément une identité qui permet aux gens de s'y reconnaître non plus.
Non, tout à fait. Et donc, mais en revanche, on attire l'attention parce qu'on fait ces exercices, parce qu'on fait des ateliers de désintoxication du langage. C'est-à-dire qu'on ne vend jamais, c'est pour ça que vous me posiez la question sur le terme spectacle, on n'accepte jamais de se déplacer avec la conférence si derrière il n'y a pas l'atelier ou le séminaire avec les gens.
Oui, alors on peut en profiter pour reparler plus précisément des conférences gesticulées, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'était.
Bon, une conférence gesticulée, vous voulez pas le dire à ma place? Une conférence gesticulée, c'est très simple. Écoutez, imaginez, on va prendre un exemple très simple. Imaginez qu'une assistante sociale parte à la retraite. Elle a 25 ou 30 ans d'expérience politique, de savoir politique derrière elle qui n'est pas reconnue comme telle. C'est-à-dire qu'elle a vu concrètement se mettre en place des politiques sociales dans un territoire, dans une ville. Elle a participé à la mise en place du RSA. Elle a tout un tas d'idées sur la question. Et quand vous déjeunez ou quand vous dînez avec elle, si elle fait partie de votre famille, elle est simplement passionnante. Elle n'en fera rien, elle va pas écrire un livre, personne ne va lui demander ce qu'elle en pense, etc. Elle ne fait pas partie du CNRS, c'est-à-dire que son savoir n'est pas légitime. Imaginez que par une procédure quelconque, cette femme monte sur une scène, réélabore dans une version de 2 heures tout ce qu'elle a compris en 25 ans et l'offre à un public, ça vous donne une conférence gesticulée.
C'est vous, finalement, là. C'est vous en tant que travailleur social.
Complètement, c'est un mélange. On a trouvé une image qu'on a empruntée à un Belge d'ailleurs qui s'appelle Luc Carton, qui est que c'est un mélange de savoir chaud et de savoir froid. C'est-à-dire qu'on a besoin des savoirs froids, c'est-à-dire des savoirs universitaires pour comprendre les choses, mais ces savoirs froids rencontrent rarement les savoirs chauds, c'est-à-dire les savoirs de notre propre expérience. Je veux dire, j'étais très surpris quand je me suis rendu compte quand je travaillais à la Fédération Française des MJC, on peut la nommer,
oui.
À Paris, j'ai travaillé là-dedans, et j'avais des collègues directeurs des MJC qui mettaient en place des dispositifs d'insertion dans les années 90, quand ces choses-là sont arrivées, les missions locales, tout ça. Et alors j'étais très surpris parce que il ne lisait absolument rien de ce que l'université produisait d'extrêmement pertinent sur la question de l'insertion. Je pense aux travaux de Bernard M. À Lille, je pense aux travaux de Simon Vuhl, enfin bref, des gens qui, dès les années 90, déconstruisaient complètement le mécanisme de l'insertion, d'accord, en disant ça ne va pas du tout ce truc-là. Eh bien, eux ne lisaient pas ça. Donc, ils avaient une espèce d'impression globale que ça déconnait complètement. En même temps, c'était avec ça qu'ils bouffaient. Donc, ils se voilaient un peu la face en disant oui, mais bon, ok, mais quand même, ça doit être utile. Et donc, vous aviez pas de communication entre les savoirs chauds et les savoirs froids. Ce que Boltanski appelle la critique artiste et la critique sociale, c'est-à-dire la rencontre des intellectuels et des gens qui sont en première ligne. Et quand vous avez cette rencontre, ça donne mai 68.
Et le fait que vous ayez choisi un petit peu le mode du rire, hein, puisque c'est quand même celui-là que vous mettez en avant, est-ce que ça veut dire que vous pensez que ce mode-là peut avoir un rôle
C'est une question qui n'est pas tranchée. J'ai voulu l'abandonner plusieurs fois en estimant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ça, puisque c'est beaucoup trop séduisant, et donc il y a un gros fort risque de manipulation. C'est-à-dire que moi, ça m'aurait pas gêné de faire la même chose d'une façon tout à fait sérieuse. Je veux dire, quand je raconte dans une des conférences la construction du ministère de la Culture, c'est vraiment pas une histoire qui me fait marrer. Il se trouve que je considère que cette administration est une saloperie, bon, en disant les choses comme elles
mais
sont.
Mais ça a une vraie efficacité sociale, dit, en termes du public qui va venir vous voir aussi.
Alors c'est tout le problème, c'est que du coup des gens viennent en sachant que c'est un spectacle, que c'est super marrant, que etc. Et du coup ils entendent tout ce que j'ai à dire. Alors évidemment, on est tenté de se dire que l'humour peut être un vecteur intéressant pour dire des choses. Enfin, ça serait plus juste de parler de l'émotion d'ailleurs que de l'humour. Je pense qu'une femme qui voudrait faire une conférence gesticulée sur le viol, ce serait pas forcément à faire des conférences marrantes. Cela étant, il y aurait pas que de l'analyse, il y aurait de l'émotion. Enfin, bon, alors il se trouve que moi, je suis d'un naturel un peu blagueur.
Ouais, on avait cru noter ça, ouais. On vous regarde.
Et donc, je me laisse aller à cabotiner et ça donne des spectacles. Et alors, c'est très intéressant votre question parce que dernièrement, j'ai vu ma fiche sur Wikipédia. Et alors, il paraît que ça vient encore de changer, mais à un moment, j'étais désigné comme humoriste français du XXe siècle.
Mmh.
Et je me suis dit, c'est extraordinaire comment le système a la possibilité de désamorcer la critique. C'est-à-dire que moi, j'étais pas humoriste. Enfin, j'ai travaillé avec des cabinets ministériels. J'étais au cœur du système. Et donc, je monte sur scène et je raconte. Ça, je trouve ça assez subversif. Si on fait de moi un humoriste, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus de danger. Je peux raconter ce que je veux.
Ça pourrait vouloir dire que les humoristes redeviennent politiques. En même temps, ce serait pas une mauvaise nouvelle. Mais j'ai une autre question.
Mais là, juste sur cette question-là, excusez-moi de vous interrompre, sur la question de l'humour politique, parce que je me suis aperçu que j'étais sur des sites d'extrême droite, et aux côtés de Dieudonné. Et à chaque fois, alors heureusement.
Ça vous a fait un choc.
Mais ça m'a fait un choc, puis ça m'a donné beaucoup à réfléchir, parce que, alors heureusement, à chaque fois qu'ils mettent ma vidéo sur un site comme, il y a un site, je crois, qui s'appelle François d'abord, c'est un jeu de mots d'extrême droite, François français,
oui,
enfin bon. Et donc le gars met une mention avant, il met attention, ce type est très 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 à gauche, mais c'est génial. Et donc je respire.
D'où l'efficacité du média, finalement.
Oui, mais en même temps, pourquoi il me met avec Dieudonné parce que je critique le système, parce que je tape sur les socialistes. Et là, ça devient extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, on me range dans la catégorie humoriste politique. Il y en a pas beaucoup, ma foi. Il y a Dieudonné effectivement dans un genre qui est voilà, on va pas faire le débat ce
peu
soir.
Peu ragoûtant, oui.
Bah oui, enfin, je veux dire, voilà, c'est du monde extrême droite. Et puis il y a moi. Et après vous cherchez qui y a. Franchement, vous n'avez pas rencontré grand monde. Enfin, il y a Guy Bedos un peu, mais c'est plutôt sur une critique de l'actualité. Et puis après.
Oui, mais en plus, enfin, faut dire aussi que ce que vous faites, c'est quand même essayer de faire réfléchir. C'est ça qui est intéressant dans votre travail.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que vous pouvez peut-être nous reparler aussi un peu de l'activité que, comme vous la voyez, c'est-à-dire que où est-ce que vous faites vos spectacles, et puis c'est pas voilà. que des spectacles, alors c'est pas que des conférences gesticulées, il y a aussi un enjeu de formation, c'est-à-dire que vous essayez
oui,
de diffuser ce phénomène-là.
Oui, complètement. En fait, c'est on a créé une coopérative de formation. Formation d'adultes, on appelle ça de la déformation continue, et on propose aux gens de venir travailler leur désir politique et non pas leur projet politique.
Avec un travail sur les mots donc, hein, c'est clair.
Avec notamment ça, mais pas seulement, on travaille avec des syndicalistes pour résister à la démarche qualité, pour refuser des processus d'évaluation individuelle.
Ouais, public management et tout ça.
Oui, c'est ça, on se bat sur le terrain de la flotte, sur le terrain, il y a, bon voilà, donc ça c'est la dimension formation. L'autre dimension, c'est le conseil aux collectivités locales, ça fait rigoler, mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des mairies, quelques-unes, qui sont empêtrés dans des procédures soi-disant de participation des habitants qui arrivent à rien du tout et qui sont prêtes à tenter des choses un petit peu plus courageuses que ce qu'ils font et on travaille avec. Et puis il y avait cette dimension complètement bizarroïde parce que j'avais commencé juste avant qu'on crée la coopérative, j'avais commencé moi cette expérience. On a tout de suite dit qu'on allait abandonner ça. La discussion entre nous, c'était Franck, il arrête. On va pas commencer avec un artiste, hein, c'est bon. D'autant plus que je revendique vraiment pas ce terme. Et donc, et en même temps, on était embêtés parce qu'on voyait bien que cette conférence nous amenait des contacts. Des gens étaient intéressés par ça, et du coup, ils venaient voir ce qu'on faisait. Du coup, on a dit, bon, ben, si Franck garde la scène, alors tout le monde en fait. Et c'est comme ça que Tony a fait celle sur la fin du pétrole, Anaïg et Alexia celle sur le management.
D'accord.
Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de gens qui voulaient en faire. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine qui tournent
bien.
En France.
Franck, merci. On est vraiment embêtés. On aurait bien vraiment voulu continuer avec vous. On va peut-être vous rappeler. Hein. On voudrait faire une autre émission sur la culture, les milieux populaires.
Donc on y reviendra sans doute sur ces questions-là. Peut-être que vous pouvez donner un lien.
Voilà.
Moi, j'ai pas votre site précisément.
Oh, le pavé. Vous tapez le pavé.
Et ben voilà, le pavé ou Franck Lepage. De toute façon, encore une fois, on va se quitter tout de suite, mais vous retrouverez l'émission sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org,
okay.
Ou sur le site de Mode d'emploi, qui est notre émission. Donc merci à vous, et bonsoir à tout le monde.
Merci Franck Lepage.
Merci,
on se quitte avec Dominique A, qui reprend Léo Ferré, mon camarade.
Ouais.